Mais en fait, j'ai étudié quelques personnes. Et puis surtout, j'ai lu un mot, je vais commencer par cette lecture d'introduction dans le livre des Lévitiques, chapitre 26, verset 36. « Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. » Alors, pusillanime, je me suis dit, qu'est-ce que c'est un gros mot, je ne comprends pas, j'ai voulu regarder dans le dictionnaire, et j'ai eu différentes explications. Alors, pusillanime, ça vient du latin pusillus, qui nous dit tout petit, et animus, âme, courage. Et en hébreu, dans la version, dans d'autres traductions de Bible, on a le mot découragement, et ça vient du mot hébreu marek, mollesse, lâcheté, découragement, angoisse. De la racine mar, amertume, comme Mara, comme Myriam, Marie, etc., amertume. Voilà, donc on est en présence de découragement, et on va voir les causes, si vous voulez bien, aujourd'hui, on va voir les causes de découragement, il y a différentes causes, différentes raisons, elles peuvent être liées à, là, juste avant, on a les malédictions, Dieu a défini des règles, et à nous de suivre ces règles-là. Par exemple, quand on a 10 commandements, quand Dieu nous dit « tu ne tueras point », même si on est sous la grâce, on est d'accord que si on tue, il y aura des conséquences pour nos vies, pour des familles. Ou tu ne commettras pas d'adultère, on sait que si on le fait, même si on est sous la grâce, il y aura des conséquences. Donc, je continue ma lecture. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Donc, parfois, dans nos vies, dans l'épreuve, parfois, on est faible. Tout nous fait peur. On a peur de notre prochain, on a peur de nos amis, on a peur de nos frères, on a peur de nos familles. On est rendu craintif, peureux, découragé. Bien entendu, Dieu ne veut pas que nous restions. Dieu a prévu des solutions pour sortir de là. Au verset 40, ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Donc déjà, première cause de découragement, c'est nos propres fautes et les fautes de nos pères. Dernièrement, j'ai eu une carte de visite d'un psychologue, et sur sa carte, c'était marqué psychogénéalogie. Là, on rejoint la notion de malédiction, vous confesserez les fautes de vos pères. Des fois, il est important de s'interroger, qu'est-ce qu'ont fait nos parents, quelle vie ils ont eu, pourquoi moi je suis découragé, pourquoi moi je suis malheureux dans ma vie. Des fois, on vient à nos causes, à nous, et des fois, il faut remonter à nos parents également. Et au verset 45, « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu, je suis l'Éternel. » Voilà, donc Dieu se souvient de nous. Dieu ne nous lâchera jamais. Il y a eu des hommes de Dieu extraordinaires, tout puissants, on s'est dit comment eux, ils peuvent être découragés. Mais quand même un David dit « J'ai traversé l'ombre, la vallée de l'ombre et de la mort », même si c'était David, même si c'était il avait peur de rien, mais il s'est quand même rendu compte qu'il y avait des problèmes. Alors lui, les sources de découragement, c'était pas ses ancêtres, puisqu'il a une aïeule qui s'appelait Ruth. C'était pas sa vie à lui, pas spécialement. Il a fait une faute, mais il en a fait qu'une. Mais il avait des fronts de partout. Lui, c'était vraiment l'ennemi. C'était les ennemis, les Philistins. C'était son fils, Absalom, qui a tué un autre de ses fils. C'était vraiment, il avait beaucoup de sources de découragement. Un jour, il pardonne à Absalom. Allez, reviens. Et qu'est-ce que fait Absalom? Il mène une révolte contre lui. Donc c'était un homme infiniment courageux, mais lui, son découragement, c'était l'ennemi qui était là toujours à vouloir le décourager, l'abattre, le démolir. Mais la force de David, c'est que toujours, y compris dans la vallée de l'ombre de la mort, il savait que Dieu était avec lui, qu'il ne le lâchait pas. Ça, c'était sa force, c'était sa foi. Maintenant, nous allons voir rapidement Josué. Josué au chapitre, alors lui, pareil, c'est un homme incroyable, il faisait partie des 12 espions. Il a affronté tout le peuple d'Israël qui voulait pas rentrer dans le pays de la promesse. Il a dit on peut y aller, c'est bon. Il y en a 10 qui ont dit non, c'est trop dangereux, on n'y va pas. Il a failli se faire lapider. Il a été Moïse avant de partir l'a désigné comme son successeur. C'est Dieu qui l'a dit. Donc il a toute l'autorité, il est tout puissant. Et pourquoi il serait découragé? Et pourtant dans le premier chapitre, Dieu répète à 3 reprises fortifie-toi et prends courage. Au verset 6, au verset 7, au verset 9, « Fortifie-toi et prends courage. » Alors pourquoi il aurait été découragé, Josué? Bien sûr, ce sont mes hypothèses, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais Josué, par exemple, il avait dans sa vie, là il a quand même 40 ans de plus, ils ont passé 40 ans dans le désert. Donc peut-être que son enthousiasme d'il y a 40 ans, on peut y aller, peut-être qu'il est un petit peu émoussé. Il y a l'âge qui est là. Josué, il a vu tous ses compagnons d'armes qui sont morts. Tous ceux qui n'avaient pas cru dans la promesse, ils sont morts dans le désert, à part Josué et Caleb. Ensuite, il se retrouve leader, formidable. Mais le peuple dont il a la responsabilité, il n'est pas facile. On peut le dire. Parfois un peu désobéissant, parfois un peu en révolte. Et puis, quand même, il a un défi, il a quand même cette conquête qui est devant lui avec des villes fortifiées, des géants, etc. Donc Dieu l'encourage, fortifie-toi et prends courage. Plus loin, Josué il dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le résultat, ben, ils sont rentrés dans le pays de la promesse, en Canaan, ils ont pris les forteresses, et il a partagé ce pays entre les différentes tribus d'Israël, ce qui n'est pas rien. Après, je vais voir, là, j'ai vu des hommes, maintenant nous allons voir des femmes. Je vais vous lire dans le premier livre de Samuel, l'histoire de Anne, la mère de Samuel. Alors Anne, elle avait également des problèmes, de l'opposition, on va dire. Donc elle était mariée d'un homme qui s'appelait Elkana. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu ? Et pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longuement en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Donc là, on voit Anne qui a une vie, elle est malheureuse, elle est stérile, et son besoin d'enfant est légitime. Aujourd'hui, on peut enfanter soit dans la chair, soit on peut enfanter également spirituellement, on peut témoigner à des personnes. En plus, elle a quelqu'un qui habite sous le même toit qu'elle, c'est Pénina, et chaque fois qu'elle va au temple, elle lui rappelle, t'es stérile. C'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. Pourquoi tu montes au temple? Pourquoi tu fais ça? Ensuite, on a Anne, on voit qu'elle est persévérante, parce qu'elle continue d'aller au temple. Elle sait que chaque année, ça va se passer pareil. On va aller là-bas. Pendant le voyage, Pénina va me dire toujours la même chose, que je suis stérile, qu'elle est bénie, qu'elle a des enfants. On va aller là-bas, je vais être tellement malheureuse, je vais pas manger. Et puis là, cette fois-là, coup de grâce, on pourrait dire. L'homme de Dieu, il a sa logique déductive. Il voit ses lèvres qui bougent. Il y a un banquier à côté, ses lèvres bougent, donc elle est ivre. Il lui dit, va cuver ton vin plus loin. Et cette femme, elle est persévérante. Vraiment, elle a une qualité, c'est la persévérance, parce qu'elle continue d'aller au temple. Et elle a cet homme de Dieu qui est pour le moins maladroit, qui la coupe en deux. Et elle dit, mais non, je suis pas ivre. Alors, parfois, des fois, quand on dit des choses, je voudrais un peu m'arrêter là-dessus, quand on dit des choses, on peut vraiment blesser, des fois, des paroles dites à la légère blessent comme des glaives. Et j'ai un ami qui a connu des difficultés, et il était jeune, je crois qu'il va avoir 18 ans, Et un jour, il rentre chez lui, et on est dans l'épreuve, là, hein, dans la détresse, et il voit sa maman qui est pendue à un arbre, qui s'est pendue. Et il prend un couteau, il coupe la corde, et il part. Il part, et il est confus, il part. Il cherche pas à savoir si elle est vivante, pas vivante, il part. Et le soir, il rentre, et sa mère est dans la cuisine, elle fait à manger. Et plus tard, il apprendra que ce jour-là, c'est sa mère qui était désespérée. Elle était alcoolique, pas parce qu'elle était méchante, mais elle essayait de trouver un refuge dans l'alcool. C'est pas un bon ami, mais elle cherchait son refuge là-dedans. Et ce jour-là, elle avait dit, je vais aller à l'église, et je vais aller communier, je vais me rapprocher de Dieu, Dieu peut m'aider. Et ce jour-là, quand elle a voulu communier, l'homme de Dieu qui était là lui a dit, tu es divorcé, tu n'as pas le droit à la communion. Et elle s'est pendue. Parce que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder son vase de désespoir. Et aujourd'hui, je crois que on peut vraiment être découragé pour beaucoup de raisons. Mais regardons la qualité d'Anne, elle est persévérante. Il me traite encore d'alcoolique. Déjà, j'ai ma Pénina qui m'a dit de tout, qui m'a mortifié. Mais elle se démonte pas. Elle dit, je prie parce que j'ai un besoin. Je prie parce que je suis dans la souffrance. Et ce qui se passe, le résultat, c'est que l'homme de Dieu, le même, il dit une parole de vie. Là, il s'est trompé juste avant, mais là, il donne une parole de vie. Va, ta prière est exaucée. Elle l'a saisie, cette parole. Elle la prend pour elle. Et le résultat, c'est qu'on a Samuel, un homme de Dieu incroyable qui va naître. Et cette femme-là, elle va avoir également d'autres enfants. Donc, elle a persévéré, elle a lutté. Et elle a été bénie. On va voir une autre personne maintenant. On va aller dans le Nouveau Testament. Nous allons voir une Cananéenne, au chapitre 15, du verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Donc, on voit une femme cananéenne, elle est criarde, elle crie. Son moyen de communiquer, elle a un besoin, sa fille est atteinte d'un démon, et son besoin de communiquer, c'est de crier. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'elle a eu des exemples dans sa famille, elle a besoin de crier. Au point que Jésus ne lui répond pas. Il se dit quand même, quand il y a quelqu'un qui crie, si on lui répond en criant, il va crier plus fort. Si on lui répond normalement, il va continuer à crier. Mais si on se tait, ça l'interpelle. Et je pense que c'est le silence, derrière le silence de Jésus, c'est ce qu'il cherchait à faire auprès de cette femme. Là, on voit que la cause de son désespoir, de son découragement, c'est un démon, puisqu'elle dit que ma fille est tourmentée par un démon. Alors, elle crie tellement que même les disciples ont, Seigneur, dis-lui de partir, elle nous casse la tête, fais-la partir. Elle a un autre problème, c'est qu'elle n'est pas juive, elle ne sait pas comment se repentir, elle ne sait pas comment obtenir la bénédiction, elle ne sait pas le processus de confesser les péchés, etc. Elle ne sait rien. Elle sait juste que Jésus peut l'aider. Alors, elle doit s'humilier pour obtenir sa guérison. Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Il la pousse à s'humilier. Et elle s'humilie, elle dit, mais les petits chiens peuvent prendre les miettes qui tombent sous la table. Et là, le résultat, qu'est-ce qu'elle a obtenu? Elle a obtenu la guérison de sa fille alors même, et elle a été gratifiée d'une grande foi. C'est une femme, Jésus l'a proclamé qu'elle avait une grande foi. Maintenant, nous allons voir une femme à la perte de sang. Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pourquoi Jésus lui dit mais? Parce que c'était une femme qui avait une perte de sang, et le fait que on n'avait pas le droit de toucher une femme, quelqu'un qui s'est mis, on n'avait pas le droit, c'était vraiment interdit. Et le fait qu'elle, elle prenne ce risque et qu'elle touche des, alors qu'elle a une perte de sang, qu'elle touche une personne pour arriver à Jésus, elle a dû batailler, elle a dû combattre, elle a dû avancer, elle est arrivée par derrière en plus. Mais elle aurait dû avoir, elle s'attendait à une condamnation, mais Jésus a proclamé une bénédiction. Alors cette femme, son problème, c'est qu'elle était malade depuis 12 ans. Elle avait confiance dans son argent, puisqu'elle a dépensé tout son bien. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout son bien. Alors que ça lui a servi à rien, puisque son état allait en empirant. Mais elle était sûre que son argent allait lui donner la santé. Elle a continué à dépenser tout son bien. Elle arrive là, elle n'a plus d'argent. Elle ne peut pas inviter Jésus à manger. Elle peut pas, elle a une perte de sang, elle peut même pas aller dans la foule, normalement. Alors, ce qu'elle fait, elle élabore une stratégie. Je vais me cacher, je vais me dissimuler. Je vais arriver par derrière, je touche son vêtement et je repars avec ma guérison. Vite, je repars avec ma guérison, personne ne m'a vu, c'est ma stratégie. On va voir comment sa stratégie va fonctionner. Alors, sa stratégie fonctionne, elle touche le vêtement de Jésus. Mais Jésus, il avait autre chose pour elle, cette femme-là. Qui était découragée, qui avait plus de bien, qui avait plus rien. Jésus, en se retournant, en demandant qui m'a touché, la pousse à elle à se confesser. Elle est venue chercher sa guérison, elle l'a eue. Mais Jésus voulait donner le plus, elle s'est confessée. Oui, c'est moi, je suis atteint d'une perte de sang depuis 12 ans, j'ai touché les gens pour passer à la foule, mais Jésus l'a bénie. Et le résultat, elle a et le pardon et la guérison. Donc c'est une femme qui a eu quand même du courage, qui était découragée par son état de santé. Elle a quand même cru que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle, et Jésus a fait plus que ce qu'elle attendait. Il lui a donné le pardon. Maintenant, nous allons voir encore une personne, c'est une pécheresse. Ça sera la dernière personne que nous allons voir, c'est une pécheresse, dans Luc chapitre 7, versets 36-39 et les suivants. Et toujours confrontée au jugement, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Un peu plus loin, au verset 44, puis Jésus se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Voilà, là on a une femme pécheresse, ses obstacles, elle a beaucoup péché. Jésus est dans une maison de pharisiens. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va être jugée, elle va être condamnée par la langue. Elle s'expose à un risque parce que les pharisiens n'étaient jamais au contact des pécheurs. Elle a une mauvaise réputation et elle doit combattre l'opinion publique. Quelle est sa démarche? Son plan, elle se dit, si j'arrive à rentrer à mettre au pied de Jésus, je serai protégée, personne ne pourra me toucher. Donc c'est ce qu'elle fait, elle se jette au pied de Jésus, elle pleure. Elle lui mouille les pieds, elle lui essuie les pieds avec les cheveux, elle lui répand du parfum dessus. Le résultat, personne lui a fait de mal, elle a été protégée par Jésus, et en plus, Jésus lui pardonne tous ses péchés, devant le pharisien, devant les autres. Alors ce qui se passe, c'est que parfois, quand on est chrétien, on peut avoir des problèmes, on peut se comporter d'une telle manière. Moi, par exemple, après 15 ans de conversion, j'ai été confronté à un divorce. Et là, j'ai culpabilisé, bon, on a divorcé, on n'a pas pu sauver le couple, on a essayé différentes manières, on n'a pas réussi. Ça, on n'était pas dans le plan de Dieu, on était bien conscient. Et je m'en suis voulu après pendant longtemps. Je m'en suis voulu, pas tellement du divorce parce qu'il était inéluctable, mais surtout de moi, du mal que j'avais fait à la mère de mes filles. de ce que je lui avais dit. Et je me disais, ça fait 15 ans que tu es chrétien, tu lui as dit ceci, tu lui as dit cela. C'est impardonnable. Et un jour, dans la Bible, j'ai trouvé l'histoire de Pierre, qui a renié 3 fois Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Impardonnable. J'étais le meilleur. C'est moi qui étais toujours le meilleur. J'arrivais le premier au tombeau quand, ça c'est après la mort de Jésus. Je suis arrivé. Mais bon, son remords s'est passé après la mort de Jésus. Il pouvait pas se pardonner. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait dit, tu seras pêcheur d'homme. Lui, il est parti à la pêche au poisson. Il pouvait pas se pardonner. Il a fallu que Jésus aille vers lui dise 3 fois, lui demande 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Et là, il a compris tout l'amour de Dieu. Il a pu demander pardon à Jésus, il a pu reprendre sa vocation, reprendre son ministère, reprendre les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et ce que je veux dire par là, c'est que des fois on se sent impardonnable, mais Dieu peut tout nous pardonner. Et même si on est croyant depuis longtemps, on doit demander pardon. Donc moi, quand j'étais dans cette situation, un pasteur est venu me voir, il me dit, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, je veux juste savoir une chose. Est-ce que tu as demandé pardon? Et je n'ai pas demandé pardon. Mais c'était une parole de vie, une parole réma, et j'ai pu demander pardon, et depuis, Dieu m'a relevé, Dieu m'a permis de continuer ma vie, de continuer à l'aimer, de continuer à le servir, à m'occuper de mes enfants, mais pas en restant dans mon découragement, en étant encouragé. Voilà, mes frères et sœurs, vous avez compris que le remède au découragement, c'est la prière, donc peut-être qu'on pourrait avoir un moment de prière, je vais laisser la place à nos frères pour conduire ce moment de prière. Et merci encore.